France Musique.
France Musique. Vous allez l'adorer.
Un tour du monde, non pas en 80 jours, mais en 130 opéras, sans bouger de chez soi. Voilà ce que propose un beau livre. Il vient de paraître aux éditions Première Loge. Notre idée de cadeau ce matin sur France Musique. C'est ce qu'on vous propose toute la semaine à cette heure-ci. Livre que vous avez signé, Christophe Rizzo. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Journaliste musical, président du site Forum Opéra. D'abord, quelle est l'idée de ce grand livre en papier glacé, 300 pages, plein de photos?
La première idée, c'est d'attirer l'attention sur les opéras en tant que théâtre, parce qu'on parle souvent des opéras des œuvres, et il existe beaucoup de livres sur les nombreux opéras du répertoire, mais on parle beaucoup moins des théâtres. Donc la première idée, c'était de montrer que les opéras, les théâtres lyriques, donc, sont des œuvres d'art, comme les opéras, les partitions de musique.
À qui vous adressez-vous? Parce que c'est assez grand public, et les textes sont assez courts. C'est pas pour les lyricomanes forcément avertis et qui ont traversé déjà les 5 continents dans tous les opéras du monde.
Non, je m'adresse à tous les amoureux de l'opéra, mais plus largement à tous les amoureux de l'art et à tous les amoureux de l'histoire, parce que quand on commence à visiter ces opéras, on se rend compte qu'ils sont très liés à l'histoire de leur pays.
Vous-même, ces 130 opéras, vous les connaissez tous? Finalement, comment vous avez fait les choix? C'est pas exhaustif, bien sûr. Il y en a plus que 130.
Bien sûr, on aurait même pu en faire 250 ou 360. Il fallait juste se fixer une limite, donc on a fixé cette limite arbitrairement à 130. Mais bien évidemment, il existe beaucoup plus d'opéras que cela. Notre choix, en fait, s'est porté sur les plus connus. Quand je dis notre choix, parce que dans la réalisation de ce livre a été associée Chantal Cazot, qui est l'éditrice de Première Loge, la maison d'édition du livre. Et donc notre choix s'est arrêté donc sur les opéras les plus connus et surtout les opéras qui étaient encore en activité. C'est-à-dire qui proposait encore régulièrement des représentations lyriques.
Vous mettez en avant dans chacun de ces focus, chacune de ces pages, le côté architectural et historique de ces théâtres lyriques également. C'est ce qui ressort le plus peut-être du livre.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de s'intéresser au théâtre. Donc, il y a effectivement l'architecture qui à chaque fois est passionnante, parce qu'associée à une époque et puis associée aussi à une histoire. Et donc c'est ces deux versants que j'ai voulu examiner en premier, mais aussi on rappelle les quelques créations fameuses qui ont eu lieu dans ces théâtres, parce que ces théâtres, souvent on peut les prendre pour des musées, hein, Conféré Garnier que l'on peut visiter sans forcément assister à une représentation, mais ce sont avant tout des lieux de vie, des lieux de spectacle, et donc il ne faut pas oublier cette composante essentielle, ne pas les regarder uniquement comme des objets inertes.
La grande histoire, Christophe Rizzo, mais aussi la petite, en feuilletant le livre, on découvre aussi le nombre d'anecdotes, parfois d'histoires étranges associées à ces théâtres lyriques qui sont parfois empreints de mystère.
Oui, c'est ce qui est savoureux, bien évidemment, dans ces théâtres, parce que finalement, on connaît beaucoup le fantôme de l'opéra, Garnier, mais ils ont tous leurs propres fantômes, leurs propres histoires, et des histoires assez fantastiques. Par exemple, à Palerme, il y a aussi un fantôme, mais c'est un fantôme particulier, puisque ce serait le fantôme d'une religieuse dont la sépulture aurait été dérangée par la construction du Teatro Massimo.
Quel est pour vous, Christophe Rizzo, parmi les plus surprenants, les plus originaux de ces opéras dont vous nous proposez le tour du monde dans ce livre?
Alors ça, c'est la question évidemment difficile, hein, c'est le choix de Sophie, parce que tous sont intéressants et tous méritent d'être explorés, d'être visités et non pas simplement consommés. Mais moi, j'ai un petit faible, je l'avoue, pour Monte Carlo, qui est un opéra construit par Charles Garnier dans le casino de Monte Carlo. Donc, il y a une espèce de petit Garnier, mais qui a cette originalité fantastique, un peu, d'avoir des fenêtres ouvertes sur la Méditerranée, ce qui fait que quand vous assistez à une représentation en matinée, à l'entracte, on ouvre les rideaux, et de votre siège, vous voyez en face de vous la Seine, et sur le côté la mer, et c'est assez magique.
Vous en avez vu beaucoup, bien sûr, dans vos fonctions de journaliste musical à Forum Opéra. Donc vous êtes le président, je le rappelle, Christophe Rizzo. Ces opéras, peut-être, là, vous me disiez le plus surprenant, le plus original. Quel serait pour vous votre théâtre lyrique de cœur? C'est aussi Monaco ou un autre? Parfois, c'est lié aussi à l'enfance.
Je les aime tous, ou presque tous, parce que je vous avoue qu'il y en a que j'aime un peu moins que les autres. Moi, j'aime beaucoup les petits théâtres. Enfin, quand je dis petits théâtres, c'était les théâtres de taille moyenne, d'environ 1000 places. Et j'ai personnellement un faible, pour tout un tas de raisons, qu'il serait trop long de développer ici, pour le Teatro Reggio de Parme, en Italie.
Eh bien, ce sont des opéras qu'on découvre dans ce tour du monde, dans 130 opéras. Il y a beaucoup d'opéras français, hein, des opéras de région. L'opéra Gralin à Nantes, l'opéra de Rennes, l'opéra de Bordeaux, bien sûr, entre autres opéras que vous nous présentez. Très agréable livre pour tout le monde, les amateurs de la lyrique, mais aussi, je le disais, d'architecture, d'histoire aussi, de tour du monde dans 130 opéras aux éditions Première Loge. Merci beaucoup, Christophe Rizou.
À réécouter sur francemusique.fr.